en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Le lundi 19 janvier 2009, lors de la séance de l'Académie des sciences morales et politiques, c'est M. Michel Zinc, professeur au Collège de France et membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui s'est exprimé devant ses confrères pour présenter l'histoire et l'esprit d'une haute institution ancienne et prestigieuse, le Collège de France. Cette communication s'inscrit dans le thème de réflexion de l'année 2009 proposé par le président Jean-Claude Casanova, Université, Sciences et Recherche dans la France d'aujourd'hui. Écoutez maintenant la communication de Michel Zinc.
Sur le blason du Collège de France se lise une devise, Docet Omnia, il enseigne toutes choses, et une date, 1530. La date est celle de la fondation du Collège Royal par François Ier, grâce à l'initiative de l'humaniste Guillaume Budet, soutenue par la reine Marguerite de Navarre, sœur du roi. D'autres institutions sont plus anciennes, mais, comme le rappelait Jean-Claude Casanova il y a un instant, de nom seulement. Il n'y a rien de commun entre le collège fondé en 1253 par Robert de Sorbon et la Sorbonne. Il n'y a rien de commun même entre l'Université de Paris, rénovée par la jeune Troisième République et installée en 1900 dans le nouveau bâtiment auquel on a donné le nom de Sorbonne, et les universités, si Jean-Robert Pitt me pardonne, qui aujourd'hui se partagent et se disputent le nom de Sorbonne en même temps que des locaux ou des galetas dans l'illustre maison. Dans sa définition, dans sa vocation, dans son activité fondamentale, dans son esprit, le Collège de France, en revanche, a très peu changé. Et ses vicissitudes ont été légères au regard de celles de l'histoire. En 1772, il a été rattaché à l'université, mais la mesure a été rapportée en 1794. En avril 1848, on veut qu'il cède la place à une école d'administration, mais cette décision du gouvernement provisoire est annulée dès le mois de novembre de la même année. Napoléon lui a imposé sa marque, comme à toutes les institutions françaises. C'est depuis 1800 que le président de l'Assemblée des professeurs porte le titre d'administrateur. Mais surtout, en 1970, il a échappé à la réforme Edgar Faure des universités, comme il a échappé à toutes les réformes ultérieures. Et cela l'a sauvé. S'il a profondément évolué dans les 10 dernières années, c'est de sa propre initiative. Quant à la devise « Docet Omnia », elle est ambitieuse, mais non pas exactement dans le sens qu'on pourrait croire. Elle ne signifie pas que tous les savoirs du monde, naturellement, sont enseignés au Collège de France, mais que le Collège de France a vocation d'enseigner librement, sans contrainte ni restriction de quelque ordre que ce soit, tout ce à quoi il choisit de s'intéresser. Et aussi qu'il ne restreint pas son enseignement aux savoirs acquis et assurés, mais qu'il fait partager les découvertes d'une pensée et d'une science en gestation. C'est ce qu'exprime aujourd'hui la phrase de Merleau-Ponty qui est gravée dans le foyer entre les amphithéâtres et la formule que nous utilisons volontiers, dont nous abusons peut-être, enseigner la recherche en train de se faire. Cet esprit était déjà celui du Collège Royal de François Ier. Le projet de Guillaume Budet et des Érasmiens qui l'entouraient, était de créer un lieu d'enseignement de très haut niveau et entièrement libre. Une liberté garantie par la protection royale et assurée par le fait que l'institution ne délivrant aucun diplôme ni aucun grade n'avait nul besoin de se soumettre aux règles de l'université, à des programmes, à un cursus. Cette situation n'a pas changé depuis 500 ans. Aujourd'hui encore, les cours du Collège de France sont ouverts à tous, gratuitement, sans inscription et sans aucune restriction. Aujourd'hui encore, le Collège de France ne délivre aucun diplôme. Aujourd'hui encore, il a pour protecteur le chef de l'État. Deux mots d'histoire encore avant de parler à la situation présente. Les 6 premières chaires qui ont été créées étaient 3 chaires d'hébreu, deux de grec et une de mathématiques. Ces disciplines n'étaient pas ou étaient peu enseignées à l'université. Mais surtout, elles représentaient alors les plus grandes avancées, les plus grands espoirs du savoir et de la pensée. Pour les mathématiques, ça va de soi. Le grec, redécouvert par les humanistes, ouvrait les trésors littéraires, philosophiques et scientifiques de la Grèce antique, modèle d'une pensée rigoureuse et libre, d'une sensibilité ouverte et intelligente à la beauté du monde. Mais le grec était aussi la langue du Nouveau Testament, comme l'hébreu celle de l'Ancien. De leur connaissance dépendait l'étude de l'Écriture sainte, la rigueur de son interprétation philologique, historique, théologique. Et dans ces années 1530, où le débat intellectuel né avec la Réforme n'avait pas encore abandonné la place à la violence des armes, l'enjeu était immense. Cette ouverture du Collège de France aux disciplines nouvelles, aux curiosités et aux audaces de l'esprit, aujourd'hui essentiellement sensibles, bien entendu, dans les disciplines scientifiques, s'est particulièrement manifestée dans les premiers siècles de son existence par son intérêt pour l'orientalisme. À l'enseignement de l'hébreu s'ajoute dès 1646 celui de l'arabe, puis celui du persan, du turc. En 1814, sont créées une chaire de langue et littérature chinoise et tartare manchou et une chaire de sanskrit. Champollion, qui avait percé le secret des hiéroglyphes, est nommé en 1831 dans une chaire d'archéologie. Dans la longue nouvelle ou le court roman de Théophile Gautier, Fortunio, une jeune femme, ayant dérobé le portefeuille de son amant, y trouve une lettre écrite dans un alphabet indéchiffrable et apparemment oriental. Dévorée par la jalousie, elle cherche un savant pour la lui traduire. Une de ses amies lui apprend que seuls en sont capables les professeurs au Collège de France. Alors, elle a un fiacre, elle montre immeuble sordide, escalier qui sent le chou, bonne fouillon. Enfin, elles sont introduites chez le professeur au Collège de France. Donc, elles vont en trouver un qui, informé que deux dames demandent à le voir, s'écrit « Ce seront des duchesses qui auront lu mon traité sur la ponctuation du manchou et seront devenues amoureuses de moi. » La fatuité, la propension à surestimer l'importance de ses recherches et la renommée de ses travaux sont des traits communs à tous les universitaires. Ils ne caractérisent pas les seuls professeurs au Collège de France. En revanche, il est significatif qu'aux yeux de Théophile Gautier, le Collège de France soit par excellence le lieu où l'on trouve des orientalistes. Mais il n'est pas sans nulle fatuité, parce que moi je suis vraiment le dernier et le plus misérable, mais il n'est pas de domaine de la pensée et de la science qui n'ait eu au Collège de France d'illustres représentants, parfois ses plus illustres représentants. Et il serait vain de se lancer dans une énumération nécessairement incomplète et qui prendrait l'apparence d'un palmarès ridicule. Il est tout aussi inutile de nous attarder davantage sur l'histoire du Collège de France, puisque c'est l'état actuel des institutions universitaires françaises qui fait l'objet cette année des travaux de votre compagnie, et c'est donc du Collège de France actuel que je vais tracer un bref tableau. Le Collège de France compte actuellement 52 chaires permanentes, auxquelles s'ajoutent désormais 4 chaires tournantes annuelles, dont je parlerai tout à l'heure. Ces chaires sont réparties à peu près également entre les mathématiques, les sciences de la nature et de la vie d'une part, les lettres, sciences humaines et sciences sociales de l'autre. Cette répartition n'a rien de fixe et pour une raison simple. Le Collège de France n'a pas à enseigner les matières d'un cursus universitaire. Il fait donc de ses chaires ce qu'il veut. L'intitulé de chaque chaire est défini en fonction du professeur appelé à l'occuper et qui le choisit lui-même. Lorsqu'une chaire est vacante, l'âge de la retraite est 70 ans, l'Assemblée des professeurs cherche un savant qui se recommande par la qualité de ses travaux, la nouveauté de ses recherches, l'intérêt de sa discipline. Elle décide alors, par un vote, de demander ou non la création d'une chaire correspondante à son domaine. Il n'y a donc pas de continuité des chaires. Par exemple, en 1979, au départ de Raymond Aron, sa chaire, sociologie de la civilisation moderne est devenue une chaire de chimie des interactions moléculaires pour Jean-Marie Lène, qui devait obtenir le prix Nobel en 1989. On ne se porte pas de sa propre initiative candidat au Collège de France, on est pressenti et sollicité. Il n'existe aucune condition de diplôme, ni depuis 1993, de nationalité. Le privilège des ressortissants de l'Union européenne a été étendu au monde entier. On compte ainsi actuellement, parmi les professeurs permanents, en activité ou honoraire, deux Allemands, un Américain, un Anglais, un Belge, un Canadien, un Grec, deux Italiens, un Luxembourgeois, un Norvégien, un Suisse, peut-être. L'Assemblée des professeurs coopte librement la personnalité de son choix, qui sera nommée par le président de la République après, comme vous le savez, consultation de l'Académie compétente de l'Institut de France. Et il ne reste plus au nouveau professeur qu'à prononcer devant ses collègues et un public nombreux sa leçon inaugurale qui sera publiée par les soins du Collège de France et des éditeurs. Le service d'enseignement d'un professeur au Collège de France est de 18 heures par an pour les 18 leçons par an pour les professeurs qui ont un laboratoire et de 26 leçons pour ceux qui n'en ont pas. Le professeur, précise-t-on, doit assurer lui-même la moitié de 16 heures, c'est-à-dire que l'autre moitié peut prendre la forme d'un séminaire. Le professeur choisit librement son sujet, sous le contrôle de ses collègues. L'Assemblée des professeurs doit approuver par un vote la liste des cours proposés chaque année pour l'année suivante. Nous pourrions donc théoriquement interdire à nos collègues de faire cours sur le sujet qu'ils proposaient. Chaque année, le professeur publie dans le volume de cours et travaux du Collège de France un résumé assez substantiel de son cours, une vingtaine de pages. Ces obligations semblent légères. Il faut cependant tenir compte du fait que chaque cours doit être nouveau. La seule règle, il est interdit au professeur, dans toute sa carrière au Collège de France, de répéter un cours. Et en principe, il doit chaque fois apporter du nouveau à la science. Cette exigence est d'autant plus angoissante que les cours sont ouverts à tous. Certains auditeurs sont d'une fidélité redoutable et ne manquent pas un cours pendant 10 ans, 15 ans, davantage. Les collègues étrangers les plus illustres ont une fâcheuse tendance à venir à l'improviste écouter un cours au Collège de France. Et enfin, quel que soit le sujet dont on parle, on est à peu près sûr qu'un spécialiste particulièrement pointu vous écoute. Ça a toujours été vrai, ça l'est encore plus depuis les changements qui sont intervenus ces dernières années au Collège de France. Avant d'en venir à eux, un mot sur la gouvernance, comme on dit, de l'institution. Le pouvoir est tout entier entre les mains de l'Assemblée des professeurs, qui se réunit trois fois par an, en novembre, mars et juin, toujours un dimanche. Soit qu'à l'origine, on se soit réuni un dimanche après avoir entendu la messe, soit qu'à la fin du XIXe siècle, on ait été convoqué un dimanche pour ne pas pouvoir aller à la messe, ce qui me paraît plus propre. On n'avait pas prévu à l'époque la messe anticipée du samedi soir. Tous les professeurs sont conviés à l'Assemblée, mais seuls votent les professeurs en activité titulaires de chaires permanentes. L'Assemblée des professeurs joue le rôle de conseil d'administration et de conseil scientifique. Elle élit en son sein, pour 3 ans renouvelables, un administrateur, président de l'Assemblée des professeurs, un vice-président et un secrétaire. Et ils jouent naturellement que lorsque l'administrateur est littéraire, le vice-président soit scientifique ou vice-versa. Et depuis le début des années 90, il existe un conseil d'établissement réunissant des représentants élus de différentes catégories de personnel, des personnalités extérieures, mais le rôle n'est que consultatif. Enfin, l'extrême liberté, l'entière liberté dans la définition, oblige les professeurs à réfléchir et à se renseigner constamment sur les domaines où il se passe quelque chose et sur les personnalités qui émergent. Ils se réunissent donc régulièrement en assemblées informelles, par discipline ou tous ensemble, pour faire le point sur ces questions. Car tout professeur peut librement et de sa propre initiative proposer la création d'une chaire dans le domaine qu'il veut et pour qui il veut, mais la tendance est de plus en plus de chercher un consensus préalable. C'est ainsi que le Collège de France fonctionne et qu'il a pratiquement toujours fonctionné. Quels sont donc les changements auxquels je faisais allusion? Il s'est d'abord agi de changements matériels, de travaux, mais dont les conséquences devaient aller bien au-delà de cet aspect purement matériel. En 1992, l'administrateur André Miquel a lancé une importante rénovation du Collège de France, entrant dans le cadre des grands travaux de la présidence de la République, rénovation essentiellement sur le site principal du Collège de France, le bâtiment construit en 1775 par Charles Grin, l'architecte de l'Arc de Triomphe, futur architecte de l'Arc de Triomphe. On a commencé par la construction ou le creusement de grands amphithéâtres en sous-sol, qui est venu le moment de la rénovation des bureaux, puis des laboratoires. Bref, ces travaux qui ont réellement commencé en 1994, au moment où je suis arrivé moi-même au Collège de France, se termineront, si tout va bien, vers 2012. Je passe sur les difficultés de tous ordres, sur les problèmes financiers, sur la ponction énorme que le Collège a dû opérer sur ses ressources propres pour éviter que les travaux s'arrêtent quand l'État était défaillant, parce que si ça s'arrêtait, ça ne reprendrait pas. Nous avons pris sur nos ressources propres environ 30 millions d'euros pour un total de travaux de 120 ou 130 millions d'euros quand tout sera fini. Je me contente de souligner le rôle décisif joué par Jacques Glowinski, vice-président d'André Michel et de Gilbert Dagron, puis administrateur de 2000 à 2006, et je m'arrête, qui vraiment s'est passionné pour ses travaux, et qui de neuropharmacologue est devenu architecte, nouveau Claude Perrault, si je puis dire, et je m'arrête sur les conséquences et les développements simultanés dans l'ordre de l'enseignement et dans celui de la recherche. L'ancienne salle 8, la salle Bergson, la plus grande du Collège de France et de très loin, celle où nous faisions nos leçons inaugurales, comptait 200 places. L'actuel amphithéâtre Marguerite de Navarre en a près de 500. L'amphithéâtre Guillaume Budet, 150. L'amphithéâtre Maurice Halbwachs, 180. Deux autres salles, une centaine. Nous pensions que le nouvel amphithéâtre Marguerite de Navarre ne servirait que pour les leçons inaugurales ou dans les circonstances exceptionnelles. Or, beaucoup de cours désormais ne peuvent se tenir que là, le remplissent entièrement. Quelques-uns exigent la mobilisation d'une autre salle, quelquefois de plusieurs salles, dotées d'écrans. Pour une raison mystérieuse, les nouvelles salles ont entraîné un accroissement considérable du nombre des auditeurs, actuellement environ 150 000 par an. Évidemment, inégalement répartis, évidemment, tout à fait indépendamment du mérite du professeur, parce qu'un cours de littéraire peut être compris par tous, mais pas un cours de mathématiques. Mais, dans le même temps, le nombre des auditeurs croissait par des voies différentes. En 2001, en tant que vice-président du collège, j'ai négocié un accord avec France Culture, qui diffuse désormais chaque année l'intégralité de 15 à 20 cours du Collège de France, dans l'émission Éloge du savoir, le matin, de 6h à 7h, ainsi que des conférences, des colloques, soit sur les ondes, soit sur la radio web de France Culture. Malgré l'heure matinale, lorsqu'on m'a proposé 7h, mais j'ai dit, mais qui écoutera ça, les camions qui reviennent de Rungis, les taxis qui vont à Croissy, et puis tout d'autre. Mais non, c'est pour ça que beaucoup écoutent France Culture au lit. On se réveille et on met, enfin, c'est un, on met France Culture. Détail. Et mais malgré cette heure matinale, les cours attirent chacun entre 70 000 et 150 000 auditeurs. Alors, on ne peut pas diffuser par ce canal des cours scientifiques trop ardus, ni des cours exigeant des illustrations, archéologie, histoire de l'art, etc. Mais en 2007, l'administrateur Pierre Corvol a eu l'idée de mettre sur le site du Collège de France les cours des collègues qui en seraient d'accord sous la forme de podcasts téléchargeables gratuitement. Le téléchargement étant une démarche volontaire à laquelle nul n'est contraint, les cours les plus difficiles et les plus spécialisés peuvent être diffusés sous cette forme, d'autant plus que là, on peut mettre maintenant des illustrations, ça peut être en vidéo. Actuellement, 15 cours sont disponibles en podcast. Sur les 6 derniers mois, il y a eu 2,5 millions de téléchargements, ce qui est énorme. Et le site du Collège de France est, chaque semaine, il y a des mesures, dans les 3 premiers sites en téléchargement pour l'ensemble des sites en France. Enfin, depuis le début des années 90, les professeurs du Collège de France sont autorisés et même invités à délocaliser, comme nous disons, chaque année, une partie de leur enseignement, au maximum un tiers, à l'étranger ou dans des universités de province, ce que nous faisons volontiers. Cette année, je délocaliserai à Stanford, à Prague et à Vienne, nous faisons tout ça. Selon les invitations que recevons. Ces divers modes de diffusion interfèrent les uns avec les autres. Des auditeurs de France Culture ont l'idée de venir au Collège de France. Des étudiants américains ou japonais devant qui nous avons délocalisé nos cours téléchargent ensuite les podcasts, etc. Et beaucoup d'auditeurs du Collège de France, dans leur fidélité, des dames, des messieurs, écoutent à nouveau les bons maîtres chez eux. Tout cela a deux effets. D'une part, notre angoisse augmente avec le nombre des auditeurs et l'interdiction de se répéter n'est pas une vaine consigne quand il y a toujours dans le public du cours que nous délocalisons à Harvard ou à Tokyo une personne au moins qui nous a écouté la veille ou une heure avant grâce au podcast. Ah, mais je vous ai entendu dire ça tout à l'heure. Ah, mais on fait les astuces. D'autre part, l'audience du Collège de France n'a plus rien à voir avec l'époque où l'on prétendait que les professeurs faisaient leurs cours pour le seul bénéfice de la parité. Du côté de la recherche, les travaux n'ont pas eu moins de conséquences. Ils nous ont en particulier contraints à un choix décisif pour la politique du Collège de France. Un professeur scientifique nommé au Collège a évidemment déjà un laboratoire à l'Institut Pasteur, dans une université, à la rue d'Ulm, à l'École Polytechnique ou ailleurs. Ce laboratoire, il le garde. Est-il donc bien nécessaire que certaines chaires, comme c'est le cas, aient ou transportent leur laboratoire sur le site même du Collège de France, dans les bâtiments situés entre le bâtiment Chalgrin et le lycée Louis-le-Grand? La présence de ces laboratoires ne complique-t-elle pas singulièrement la vie d'une institution où il n'y a pas de continuité des chaires ni des disciplines et où, à la retraite d'un professeur, il faut remplacer son laboratoire par un autre? Et est-il bien raisonnable de conserver 16 000 mètres carrés de laboratoire au cœur du quartier latin? La question s'est posée à nous lorsque nous avons dû prendre la décision de rénover ou non les bâtiments qui abritent ces laboratoires. Nous avons décidé de conserver nos laboratoires et même de faciliter leur mise à la disposition des nouveaux professeurs. Et nous l'avons fait pour deux raisons principales. D'abord, pour éviter que le Collège de France devienne, si me pardonnez, une académie, un lieu honorifique où le professeur viendrait prendre la parole, mais qui serait systématiquement déconnecté de sa véritable activité scientifique. Enseigner la recherche en train de se faire n'a de sens que si la recherche est effectivement et comme physiquement liée à l'enseignement. Si un séminaire, par exemple, a lieu là où se passe la recherche. Le Collège de France ne se définit pas comme une institution d'enseignement, mais comme une institution de recherche avec cette particularité que les professeurs doivent y enseigner leur recherche. Et c'est ce qui le distingue d'institutions comme All Souls College à Oxford, dont les fellows ne sont pas tenus d'enseigner, peuvent le faire, mais ne sont pas tenus, ou comme Institute for Advanced Studies de Princeton, dont les fellows n'enseignent pas, mais qui a été créé sur le modèle du Collège de France, pour le reste. Pour All Souls, c'est plus ancien, puisque d'un bon siècle, puisque vous le savez, toutes ces âmes, All Souls, ce sont les âmes des morts de la bataille d'Azincourt, pour le repos desquels le collège a été fondé. La deuxième raison, Azincourt 1415, comme ça dit. La deuxième raison était que si nous voulions faire venir des professeurs étrangers ou revenir des professeurs français en poste à l'étranger, il fallait pouvoir leur offrir des laboratoires comparables à ceux dont ils disposent dans les grandes universités américaines. Et ça n'était possible que si nous étions maîtres de nos laboratoires, maîtres au moins des locaux, puisque ces grands laboratoires eux-mêmes sont toujours des laboratoires Collège de France CNRS ou Collège de France INSERM. Et une expérience malheureuse avec notre collègue biologiste Spiros Artavanis-Sakonas, venu de Harvard et auquel les autorités françaises ont été pendant 10 ans, plus de 10 ans, incapables de fournir les laboratoires promis, ces expériences nous avaient convaincus de cette nécessité. À l'inverse, nous allons cette année même installer dans nos nouveaux laboratoires le physicien Michel Devoret, que nous avons pu ainsi décider à revenir de Yale, où il disposait de moyens considérables, et ça va sans dire d'un traitement sans commune mesure avec celui que nous pouvons lui offrir. Car le 4 février, nous inaugurons nos premiers 8000 m² de laboratoires rénovés correspondant à la deuxième tranche des travaux, la troisième et dernière commençant cette année. Reste la question de la rotation des équipes de recherche liées à celles des chaires. Et nous l'avons en principe résolu à partir de deux principes. Le premier est que le Collège de France peut accueillir une équipe de recherche alors même qu'il n'y a pas à ce moment-là de chaire correspondante. Ce n'est pas seulement vrai dans le domaine scientifique. Nous avons une équipe de japonais, une équipe d'études byzantines, alors qu'il n'y a pas actuellement de chaire dans cette discipline. Il y a de très belles bibliothèques. Le second est que les équipes accueillies ne le sont que temporairement, 4 ans renouvelables une fois. Les changements de ces dernières années ne sont cependant pas tous liés aux travaux ni aux conséquences des travaux, et d'autres doivent être signalés rapidement. Le Collège de France s'est de sa propre initiative doté il y a environ 7 ans d'une instance d'évaluation, comité d'orientation scientifique et stratégique, formée de 12 savants étrangers de réputation mondiale, renouvelable par moitié au bout de 4 ans. Ce COS, qui travaille avec un zèle remarquable et presque inattendu, on voit le dévouement avec lequel nos collègues ont fait leur rapport, ce COS produit des rapports extraordinairement fouillés, réfléchis, précis, attentifs, qui nous sont extrêmement utiles. L'AERS, qui a produit cet été un rapport sur le Collège de France, a pu utilement s'en inspirer, mais quand on compare, il faut bien dire, la légèreté de fonctionnement de l'AERS avec ce que fait le COS, on est enfin un peu pessimiste sur l'avenir de la jeune institution française. Le Collège de France invite chaque année de nombreux savants étrangers pour des cycles de conférences grâce aux crédits laissés disponibles par les chaires vacantes à ce moment-là. Depuis une vingtaine d'années, il dispose de 2 chaires annuelles, une chaire européenne et une chaire internationale, créées alors qu'il s'ouvrait vers l'étranger, mais qu'il n'avait pas encore la possibilité de recruter des professeurs ordinaires non français. À ces 2 chaires tournantes s'en sont depuis ajoutées d'autres. Il y a 4 ans a été créée, sur ma proposition, une chaire de création artistique. Le Collège de France a créé à plusieurs reprises des chaires permanentes, pour des créateurs, Paul Valéry, Pierre Boulez, Yves Bonnefoy, Jerzy Grotowski. Mais tout créateur ne veut pas ou ne peut pas consacrer tous les ans une part importante de son temps à l'élaboration d'un cours toujours renouvelé. En revanche, il peut plus aisément, pendant 1 an, réfléchir sur son art et en parler. D'où l'idée d'une chaire tournante. Il y a eu Christian de Portland-Parc, le compositeur Pascal Dussapin, cette année Pierre-Laurent Aymard, etc. D'autre part, il y a 3 ans a été créée, à l'initiative de l'administrateur actuel, Pierre Corvol, une chaire tournante d'innovation technologique. Cette chaire est particulièrement importante en elle-même, mais aussi parce qu'elle est entièrement financée par la Fondation Bettencourt-Schiller. Le professeur est élu dans les mêmes conditions que ses collègues, nommé comme eux par décret du président de la République, mais son salaire et les frais annexes de la chaire sont pris en charge par ce financement privé. C'est la première fois depuis la Libération qu'un tel système est mis en place dans un établissement d'enseignement public français. Enfin, les 2 chaires européennes et internationales qui, dans leur définition primitive, avaient moins de raison d'être depuis que le Collège de France peut nommer des professeurs permanents étrangers, sont devenues respectivement pour 5 ans à partir de cette année, une chaire de développement durable, dont le premier titulaire, le démographe M. Les Ridon, fera bientôt sa leçon inaugurale, et une chaire Savoir contre pauvreté, dont la chaire inaugurale a été prononcée, a eu un grand retentissement par Esther Duflo la semaine dernière, et là aussi, nous avons des aides privées pour les programmes de ces 2 chaires. Cela m'amène à un dernier point, celui du mécénat. La générosité de Mme Liliane Bettencourt ne s'est pas limitée au financement de la chaire d'innovation technologique. Elle a donné 8 millions d'euros pour l'aménagement des nouveaux laboratoires. De son côté, M. Michel David Veil a donné 3 millions d'euros pour nos magnifiques bibliothèques orientalistes, égyptologie, assyriologie, études sémitiques, Chine, Japon, etc. Ces libéralités peuvent maintenant s'exercer dans un cadre plus formel. Dans un premier temps, le Collège de France a créé une sorte de petit club de grands patrons, le comité Budet, que Bertrand Collomb a eu la générosité de bien vouloir présider au départ. De petits déjeuners, maintenant des séminaires, un sur la Chine a eu lieu au printemps dernier, un sur l'Inde au printemps qui vient, permettent des échanges et mettent à la disposition des membres de ce comité ce qui, dans les compétences des professeurs du Collège de France, peut les intéresser. Après cette première étape, le Collège a créé récemment une fondation présidée par M. François Rousseli. Des libéralités antérieures ont été formalisées dans ce cadre, qui en a déjà accueilli de nouvelles, et indépendamment même du profit qu'en tire le Collège de France, particulièrement important des temps où l'on a scrupule à solliciter sans cesse les finances publiques, il faut, je crois, souligner l'effort de réflexion et de collaboration intellectuelle avec les entreprises qui se manifestent à travers le comité Budet, mais aussi à travers la chaire d'innovation technologique dont les premiers titulaires et dont les titulaires naturels sont des chercheurs créateurs d'entreprises, des chercheurs qui, à partir de ce qu'ils ont trouvé, ont créé leur entreprise. J'ai l'impression de lire un bulletin de victoire de la Grande Armée. Tout au contraire, je voudrais, pour finir, attirer l'attention sur les difficultés que rencontre le Collège de France et sur les menaces qui pèsent sur lui. Le Collège de France redoute plus que tout d'être intégré au système universitaire. Et il a parfois du mal à faire comprendre sa singularité aux autorités de tutelle. Chacun proclame bien haut cette singularité et s'en félicite, mais c'est pour demander immédiatement au collège d'assurer des tâches de vulgarisation, pour lui demander de créer une école doctorale, pour lui reprocher à demi-mot de ne pas rendre plus de services aux universités qui en auraient tant besoin, etc. Or, nous avons le sentiment que si nous mettons le doigt dans la moulinette universitaire, elle fera de nous le même hachis et le même gâchis que partout ailleurs. Mais d'un autre côté, il est vrai que nous souffrons de ne pas avoir un public plus jeune et où la proportion des chercheurs ou des spécialistes serait plus importante. Dans des cours à virtuellement large public, mais non comme le mien, il y a deux bons tiers, sinon trois petits quarts, de style université interâge. Je le dis sans, pas du tout de façon péjorative, parce que c'est un public extrêmement cultivé, intéressé, personne ne les oblige à venir, et généralement n'étant plus compétent que les jeunes générations. Et puis, le dernier tiers ou quart, des spécialistes, des doctorants, des jeunes docteurs, de maîtres de conférences, des collègues, tout simplement. Nous aimerions que la proportion change un petit peu. Nous aimerions attirer étudiants, doctorants, post-doctorants à nos cours, dans nos séminaires, dans nos équipes de recherche, dans nos laboratoires. Ce n'est pas si facile parce qu'un thésard qui fait sa thèse avec son professeur dans une université a un excellent maître. Pourquoi irait-il ailleurs? Nous cherchons actuellement une solution en signant avec des écoles doctorales ou avec de grandes écoles, en particulier l'ENF, des accords au terme desquels la simple assiduité au cours du Collège de France, à un cours du Collège de France, peut être validée et peut valoir crédit. D'autre part, les thèses que nous dirigeons sont validées sous le sceau d'une université, puisque nous ne délivrons pas de diplôme et que nous y tenons, ça c'est vrai depuis toujours, ou plutôt depuis que les professeurs du Collège de France peuvent diriger des thèses, ce n'est pas si ancien, mais nous aimerions que la mention d'une préparation au Collège de France ou dans un laboratoire du Collège de France puisse être apposée sur la thèse, figurera sur la thèse. Ce n'est pas le cas actuellement, ce qui est d'une certaine façon injuste. Une petite parenthèse, mais rassurez-vous, j'ai presque fini. La différence entre le Collège de France et les universités ne cesse de s'accroître. Elle était faible au XIXe siècle, quand même dans les universités, une bonne partie des étudiants, au demeurant très peu nombreux, étaient des auditeurs libres. Elle était encore faible avant la réforme Savary de 1984, quand le service des professeurs d'université était limité à 75 heures par an. Là. Et il faut bien dire qu'elle ne cesse de s'accroître avec la dégradation de la condition des professeurs d'université. Alors peut-être le Collège de France ne mérite-t-il pas d'être dans une situation désormais si particulière, mais il ne tient guère à y renoncer. Et au reste, il ressemble si peu à une université qu'il ne peut pas entrer dans le fameux classement de Shanghai. Ses responsables, après avoir essayé, nous ont écrit que trop de critères nous étaient inapplicables, pas d'étudiants, pas de diplômes, etc., et qu'ils renonçaient à nous classer. Alors, je viens de dire que le Collège de France devait résister aux sirènes de la vulgarisation. Alors, on va s'indigner. La vulgarisation n'est-elle pas une chose admirable ? Certes. Et les conférences du Collège de France à Aubervilliers, qui font la joie des médias, le sénateur Ralit a frappé un grand coup. Ces conférences montrent que nous ne nous dérobons pas quand il le faut. Mais nous enseignons encore une fois la recherche en train de se faire. Nous n'avons pas à nous mettre à la portée de notre auditoire. C'est à notre auditoire de se mettre à notre portée. Nul n'est obligé de suivre un cours qu'il ne comprend pas. Mais l'accroissement du public et la diffusion des cours sur les ondes et sur la toile suscitent la tentation de toucher le plus grand nombre. Une tentation dont il faut avoir conscience pour ne pas y céder. Une tentation d'autant plus grande que notre tutelle, nos protecteurs, nos mécènes nous jugent volontiers en termes quantitatifs. Deuxième point, et j'en suis à mes conclusions. Il y a quelques années encore, rares étaient les chaires du Collège de France consacrées au monde contemporain. Elles sont aujourd'hui nombreuses, surtout si l'on considère que les chaires tournantes d'innovation technologique, de développement durable et de savoir contre pauvreté, et même de création artistique, sont des chaires du contemporain, et que toutes les chaires scientifiques sont des chaires du contemporain par définition. Voilà qui plaît à la tutelle et aux mécènes. Voilà ce qu'ils encouragent. Ils saisissent naturellement plus facilement l'intérêt d'une chaire de développement durable, d'économie, de droit international, comme notre collègue Delmas Marty, que l'intérêt d'une chaire d'histoire des syncrétismes à la fin de l'Antiquité ou de littérature ancienne. Comment leur donner tort ? Mais il y a là, pour le Collège de France, une tentation symétrique à celle de la vulgarisation, celle de renoncer au omnia docet et de renoncer au rôle de mémoire du pays. Une tentation d'autant plus grande que les disciplines historiques, littéraires, philosophiques sur le versant de l'histoire des idées, philologiques, sont en crise et que notre civilisation ne sait plus quelle place leur donner dans la civilisation, dans la formation et dans la vie de l'esprit. C'est une question qui dépasse largement le Collège de France, mais à laquelle il est particulièrement sensible à cause de la liberté qui est la sienne dans la définition des chaires et le recrutement des professeurs, puisque cette liberté l'oblige à un examen sans cesse recommencé des champs du savoir et de leur justification. Faut-il accueillir telle discipline parce que si elle n'est pas enseignée au Collège de France, elle ne le sera plus nulle part ? Faut-il la rejeter parce que la fonction du Collège de France est d'être à la pointe de la nouveauté ? Ces questions entraînent en ce moment une véritable difficulté autour des chaires littéraires. Enfin, il me paraîtrait personnellement naturel et souhaitable que le Collège de France entretienne des relations plus systématiques avec l'Institut de France, dont beaucoup de ses professeurs, et en particulier presque tous les scientifiques, sont membres. Il me semble que les deux institutions y trouveraient leur compte. Je ne suis pas sûr que tous mes collègues seraient de cet avis. Et je soupçonne que sur une proposition de ce genre, je serais mis en minorité. C'est peut-être que l'idée que je me fais du Collège de France n'est pas représentative de l'institution, et dans ce cas, l'autorité de l'exposé que je viens de présenter s'en trouve ruinée. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre la communication de Michel Zinc qui a présenté le Collège de France lors de la séance de l'Académie des sciences morales et politiques.